Et salut tout le monde, bienvenue sur le Tri Show, l'émission référence de triathlon. C'est la saison 2, épisode 2, et on accueille un petit nouveau aujourd'hui, un petit nouveau. Il est déjà assez ancien quand même dans le triathlon. Salut Jérémy,
salut à
comment
tous.
Ça va?
Écoute, ça va nickel, hein, ravi de rejoindre l'équipe.
Voilà, tout le monde se demande quel Jérémy tu parles, mais...
Ben exactement, c'est monsieur Jérémy Quindos qu'on accueille avec nous sur le Tri Show en tant que chroniqueur. Alors Jérémy, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent? Tu vas pas nous présenter ton long palmarès, mais un petit peu tes dates marquantes, ton club, etc.
Je suis Jérémy Quindos, triathlète élite depuis une quinzaine d'années et actuellement j'évolue au club des Sables Vendée avec notre ami Jeanne Leher. Et puis
voilà. Et on accueille d'ailleurs Jeanne. Alors Jeanne Leher du club des Sables Vendée Triathlon de Luxembourg Triathlon.
Caribou, Jeanne, Luxembourg, c'est mon club. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle semaine.
On passe à Alex. Comment ça va, Alex, cette semaine?
Très bien, mais le Québec est déprimé parce qu'on n'aura pas de Noël blanc. Il n'y aura pas de neige. Il n'y a plus de neige.
Bah, on va passer aux rubriques Up and Down, comme d'hab. On aura le débat de la semaine qui fait son retour aussi. Un invité donc du triathlon français, un monsieur club, on va dire, qui organise une Coupe du Monde en 2024 en France. Et on passera au quiz de la semaine, le Up and Down. C'est parti. Les up and down, c'est très simple, on fait un tour de table avec les actualités qui ont marqué les semaines précédant cet enregistrement. Et on va commencer avec le petit nouveau, Jérémy Quindos, à toi la parole, t'es up and down.
Vu que je suis nouveau et que je vais apporter quand même pas mal d'ondes positives, il y aura pas de down cette semaine pour moi. Donc en up, j'ai noté l'initiative de l'association Triathlon avec 3A pour promouvoir le triathlon en soutenant les triathlètes professionnels français. Donc, ils ont créé un nouveau circuit national longue distance qui comporte 4 épreuves, une à Lacano, Bernay, Montauban et une finale à Royan. On aura un prize money attribué au meilleur du classement général. Donc voilà, le règlement sera bientôt disponible. J'ai trouvé que l'initiative était superbe et on peut s'attendre peut-être à un grand prix façon longue distance. Ça peut être pas mal.
Moi, j'ai une question pour toi. C'est qui est derrière ça? Parce que je n'ai aucune idée de qui est Triathlon.
Et on retrouve David Lacombe et Nicolas Maublanc qui sont les deux personnes qui ont lancé un petit peu ce format. Pour précision, on te verra toi sur une des 4 épreuves qui va faire ce circuit. Donc ce sera au Bernay, Lacano, Montauban et Royan.
Moi, je suis plutôt sur le court distance, mais franchement, si j'ai à me lancer sur le long distance, je pense qu'on pourra me voir du côté de Royan.
Donc c'est une annonce ou pas encore?
Pas encore.
Donc, pas de down pour toi cette semaine. On bascule avec Jeanne. Jeanne, c'est à toi pour tes up and down de la semaine.
Alors, moi, comme d'hab, j'ai commencé par le down parce que je préfère finir sur une bonne note. C'était déjà le cas l'année dernière, mais une fois encore, on n'aura pas de cup à la fin de l'année. Donc, c'est toi qu'on avait parlé l'année dernière, je me souviens, Julien. C'est un peu tristouné parce que c'est vrai que, en fait, on dirait qu'une époque se termine, l'époque des cups où c'était un peu la grande fête du triathlon en fin de saison nationale en France, en tout cas. Ça venait un peu conclure les grands prix, mais sur une touche un peu plus bon enfant, même si y avait quand même de la performance et les gens voulaient bien faire, mais. Ouais, c'est un peu dommage. Après, je comprends aussi dans le sens où il y a plein de courses, mais ouais, ça fait se sentir un peu vieux, je trouve, même pour moi.
Ouais, alors pour ceux qui nous écoutent, la Cup, c'était la Coupe de France des clubs qui était organisée chaque année, qui regroupait un petit peu tout le monde. Il n'y avait pas que les athlètes élites, il y avait les amateurs, il y avait les petits clubs, les grands clubs, et ça permettait de tous se retrouver. Il y avait des soirées qui étaient mémorables. Je pense qu'on a tous ceux qui ont vécu.
C'est tout ça qui trompe.
Bah oui, moi je gagnais pas, donc il fallait bien que je fasse quelque chose de sympa. Mais les soirées de la Cup, on a tous des souvenirs de ça. Et puis voilà, c'était le mélange de tout le monde. Et il n'y avait pas de séparation. Là, j'ai l'impression que en faisant disparaître ça, on accentue un petit peu les distances entre le triathlon amateur et le triathlon élite.
Après, c'est aussi, je pense, vu qu'on professionnalise de plus en plus le sport, plus ça se professionnalise, plus la distance se crée, je pense.
Moi, je trouve qu'il y a des bonnes initiatives quand même parce que on a regroupé quand même sur certaines étapes les épreuves de D1 et de D2, ce qui permet quand même sur la finale de rassembler, on va dire, les athlètes des équipes de D1 et de D2. Et puis voilà, il y a quand même des petites soirées qui se font à la fin, mais c'est clair que voilà, il y a quand même pas tout le monde. comme on pouvait voir à l'époque sur les Coupes de France, c'est clair.
Ouais, parce qu'ils manquent quand même les Détroits, et puis tu pouvais être aussi sans division aussi, c'était tout l'intérêt d'ailleurs. Mais oui, le calendrier est un peu compliqué, c'est vrai que Super League, je crois, c'est ce qui a précipité un petit peu la chose une année, parce que c'était aux extrémités entre Super League Toulouse et puis la Coupe.
Bah après Super League, t'as 20 athlètes en tout.
Ouais, mais tu cales un grand prix avec.
C'est vraiment parmi les athlètes qui faisaient la Coupe de France.
Non, non, c'est sûr.
Faut pas s'acharner sur la Super League, ok?
Promis, on s'acharne pas et puis on les aime bien.
Et t'as des intérêts, Jeanne, ou quoi?
Non, non, mais bon, j'aimerais bien participer.
Allez, on enchaîne. À toi, Jeanne, le up de la semaine.
Et du coup, le up sera pour les petits jeunes, même s'il y en a qui sont bientôt plus juniors. Ils utilisent le dernier mois de l'année pour faire encore des merveilles. Enfin, quoique, il y a juste Ilona Adoum qui va passer espoir l'année prochaine, enfin, à partir du 1er janvier. Du coup, elle a couru un 10 km. C'était pas la seule, mais elle, en l'occurrence, a couru le 10 km de Thaon dans les Vosges. Et elle a fait un temps qui parlera peut-être à certains, 33-12. Et je dis ça parce que bah déjà, c'est exceptionnel. Et en plus, parce que Cassandre Beaugrand avait déjà réalisé ce chrono en 2016. Alors après, on peut aussi parler carbone, pas carbone. Mais en l'occurrence, Ilona a fait vraiment une perf plutôt très, très bonne. Surtout qu'elle descendait d'altitude de Font-Romeu, où elle était avec l'équipe de France. Donc, même si on s'en doutait un peu, je pense qu'elle va être à suivre l'année prochaine et que son passage chez les grands ne devrait pas être un gros, gros problème vu ce qu'elle fait déjà cet hiver. Et ensuite, c'est pas la seule à avoir brillé parce qu'on a deux garçons aussi en équipe de France jeunes. Nils Guéry et Tristan Douche qui ont fait 20, à la même course, à la Corrida de Houille, 29-22 et 29-47. Donc, pareil, c'est des chronos... plutôt très, 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 très costaud pour leur âge, en plus.
Ouais, Ilona, c'est la deuxième meilleure performance de tous les temps en U20 sur 10 km, ce qui est, enfin, ex aequo avec ouais. Cassandre, et puis devant, bon, il y a 33 le record. Et,
ouais, c'est Alessia Zarbo qui a été championne de France de triathlon une année, je crois, même si maintenant elle est full athlétisme.
Et il y a Martin Hübner aussi qui a fait la sixième perf de tous les temps aussi sur 10 kills. Donc, ouais, les triathlètes et duathlètes, ils sont, enfin, en junior. Et ils sont vraiment vraiment au rendez-vous. Bravo ouais, les petits jeunes. C'est quoi ton record, Jérémy, toi?
Moi aussi, j'ai cassé les 30 minutes à l'époque où il n'y avait pas de carbone.
Sans les carbones.
Voilà, où il n'y avait pas les carbones. Donc voilà, moi, je reste dessus. On va dire que j'ai un peu peur de me confronter à la réalité aujourd'hui, même s'il y a les carbones.
Et toi, Jeanne? Tu connais ton RP?
C'est cette année, c'était à Yokohama, j'ai fait 33-30. Mais sinon, j'ai pas fait de 10 km route depuis... bien longtemps.
Alex?
Voilà, je suis pas dans la même catégorie, moi. Je devais être vers les 35. En tout cas, pas de carbone, c'est pour ça. Sinon, ah ouais, 32, facile, mais.
Alex, les up and down de la semaine?
Fait que je vais commencer par mon up, parce que je suis quelqu'un de ultra positif. Puis, tu sais, avec l'absence du trichot pendant un petit moment et tout, on n'a pas eu le temps de faire une rétrospective et dire des choses qui, pour moi, étaient vraiment importantes. Fait que pour mon up, c'est la revanche des négligés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur la saison de WTCS et toute, si on regarde, on a vu plein d'athlètes qui commencent à avoir un certain âge, dont certains disaient que leur carrière était comme pas finie, mais qu'on ne s'attendait plus à grand-chose d'eux, et finalement qu'on super bien réussi. Alors, Pierre Lecor, vraiment incroyable, sa fin de saison et tout, où il atteint un niveau de performance que je pense qu'il n'avait jamais eu avant. En tout cas, ça, c'est mon analyse, peut-être qu'il dira autre chose. Même Cassandre, qui réussit à commencer à être vraiment plus forte à vélo, à devenir une athlète plus complète. Tu sais, faut dire bravo. Puis Dorian aussi, tu sais, qui a comme fait une saison incroyablement régulière. Tu sais, et même, je vais le dire, Bess Potter, qui quand même à 33 ans devient une des championnes du monde les plus âgées. Je pense elle est devenue la gagnante d'une WTCS la plus âgée aussi. Puis à ça, tu viens ajouter aussi les Américaines, Zafferet, Jorgensen. Tu vois que les vieux, ils font de la résistance et c'est très bien. Et ça commence à faire parler sûrement toutes les fédérations qui se questionnent, c'est parce qu'il y a tout le temps du développement précoce, l'athlète qui doit être là tout de suite, puis s'il est plus bon tout de suite, ben il est presque à jeter. Ben là non, on se rend compte que, puis on va le dire aussi, même on peut ajouter Jeanne Leher là-dedans, qui se bonifie avec l'âge. En tout cas, est-ce que c'était ça, cette impression-là? Tu sais, Jeanne, je sais pas, c'est comme, est-ce que tu avais l'impression que rendu à ton âge, tu peux toujours continuer à progresser ou que...
J'ai 27 ans, hein.
On dirait une vieille. Quoi.
Ah ouais, mais...
J'ai connu la cup, mais quand même.
Mais 27 ans, ça a souvent été cité comme l'année où c'était comme genre...
C'est l'année des morts en général.
Normalement, c'est ça.
Alors, Amy Winehouse comme... et compagnie, c'est 27 ans, c'est le club des 27.
Ouais, mais tu sais, il y a Flora Duffy, Bess Potter et tout, t'as plus de 30 ans, tu sais, c'est comme, ils ont...
Après, en triathlon, chez les femmes, on a souvent dit que c'était un sport à maturation relativement tardive et que c'était plus autour de la trentaine que t'étais à ton pic.
On a Taylor Spivey aussi, 91, il y a Rapaport, 91.
Lisa Ferres, je pense qu'en fait, t'as des pépites jeunes, à la Cassandre un peu, qui sont direct super fortes. Mais t'en as plein, même Vicky Hollande, quand elle a percé, alors elle avait peut-être pas 30, parce que là, je sais pas quel âge elle a exactement, ou Nan Stanford. L'année dernière, Nan Stanford, quand elle gagne Munich, elle avait déjà fait des perfs monstrueuses avant, elle avait déjà été championne du monde, mais quand elle gagne Munich, elle a défoncé tout le monde, quoi. Alors, ok, elle avait moins couru que d'autres, elle avait peut-être moins de fatigue, ceci, enfin, mais même si rien que la perf qu'elle a fait en elle-même, elle était ultra forte. Est-ce qu'elle était portée par sa dernière course officielle, World Triathlon ou quoi, j'en sais rien, mais je suis pas choquée que à 30 ans, en triathlon, soit chez les filles, en tout cas.
Ouais, mais il y a combien de fédérations qui ont abandonné des projets assez tôt et toutes,
En fait, je pense que quand ils prennent le projet jeune, ils le gardent jusqu'à longtemps, mais par contre, assez vite, ils peuvent te faire dégager. Mais quand t'es dedans, imaginons, tu rentres en équipe de France à la vingtaine, la Fédé, Cassandre, ils vont pas la VK à 28 ans, quoi. Je pense qu'elle va rester là bien longtemps. Tu prends des Vincent, ils sont restés très longtemps. Fin...
Et peut-être que Vincent va nous sortir sa plus grosse saison à vie cette année. Dans cette logique-là, c'est encore possible.
Champion olympique, finally.
C'est un peu fou, mais en tout cas.
On passe à ton down, Alex?
Mon down. Alors, si vous le savez pas, c'est le retour de Plus belle la vie sur TF1. Ce qui est un up pour moi, incroyable, etc. Puis en fait, je réalise que c'est aussi le retour de Plus belle la vie dans le triathlon avec tous les enjeux olympiques. Parce que c'est ça, la WTCS, tout tourne autour de la sélection aux Jeux olympiques, etc. J'ai lu une entrevue de Taylor Spivey qui m'a vraiment fait de la peine. Parce que là, on se retrouve avec des retournements de situation, des scénarios et tout. Là, dans son cas, elle commence déjà à dire que c'était un peu émettre l'hypothèse qu'elle ait encore loupé la sélection olympique, que ça allait être un scénario injuste pour elle parce que les meilleurs, selon elle, les meilleurs athlètes internationales vont faire l'impasse sur Yokohama qui va fausser probablement la course. Et que l'USAT, le critère, ça serait que ils vont prendre juste une athlète qui est sur le podium, et sinon c'est que discrétionnaire. Et à partir de là, en fait, tu le sais. Comment tu fais pour décider quelle américaine prendre entre Jorgensen, Zafferes, Spivey, et plein d'autres noms. Fait que.
Jorgensen.
Ouais, et ça fait qu'on commence déjà à être une sorte de enflure verbale, guerre des mots entre plein d'athlètes et tout. Puis il y a d'autres fédérations que ça va être comme ça aussi, la Grande-Bretagne avec les hommes, les femmes aussi, ainsi de suite.
Ouais, après des dramas, on en a à chaque Olympiade et dans toutes les fédérations. On peut notamment citer un Vasco Villacha en 2020 qui est vice-champion du monde derrière Vincent Louis. Et qui s'est complètement fait passer à travers sur la sélection pour Tokyo 2021. Donc c'était quand même un des grands absents. Et aussi la semaine dernière, vous avez parlé de vos favoris, mais un mec comme ça, voilà, il a pas encore d'Olympiade à son compteur, mais c'est un mec voilà qui a prouvé cette année et qui avait prouvé déjà par les années passées qui pouvait surprendre tout le monde et qui a des qualités dans les trois sports. Donc ouais, pour revenir, des dramas, il y en a dans tous les pays et je pense qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore en juillet, donc on va encore en voir.
Et puis pour USA Triathlon, après il y aura pas forcément de drama. Hein. Il va y avoir une course aussi, il va y avoir une WTCS sur laquelle tout peut jouer. Si Taylor Spivey a gagné la WTCS, je crois qu'elle prend la qualif, il me semble.
Oui, mais le truc c'est que elle est plus souvent dans les échappées. Et c'est pas faux que s'il manque toute, pas mal d'athlètes qui sont à l'avant et qui durcissent les courses avec des échappées, parce que là, ses meilleures places cette année, ça a été Abu Dhabi échappé, Cagliari échappé, et après, je sais plus s'il y a eu une échappée autre part, mais Yokohama aussi, où elle fait 4, elle a fait 3-4-3 en début de saison, et à la fin, il y a moins eu d'échappée, et en plus, moi, elle avait une petite douleur au pied, donc ça n'a pas aidé. Mais je pense que c'est en ce sens-là, et ce qu'elle veut, je pense qu'elle voulait dire aussi, c'est qu'au jeu, très souvent, si même dans les autres courses, il n'y a pas d'échappée, parce que bah, tout le monde se regarde un peu, au jeu, pour le coup, tout le monde, enfin, personne ne veut que les filles de derrière qui courent très vite. Imaginons que Jorgensen soit au jeu, par exemple, bah, on va essayer de la sortir le plus rapidement possible et la mettre out, KO technique direct, quoi. Donc, c'est en ce sens-là, elle dit, ouais, c'est bien gentil de
gagner. Bien sûr, en respectant les règles. Vite, hein. Mais...
Pardon?
Non, je disais bien sûr en respectant les règles, hein, KO,
oui, oui.
C'est pas croche-patte ou un petit coup de poing bien
placé. Non, bah avec un peu de chance, elle le fera tout seul. Mais
un petit proteste.
C'est en ça que on sait que bah prendre des très grosses coureuses c'est très bien, mais si jamais elles sont pas dans la course dès le début à Paris, puisque ça va être bah tout le monde va être à 100%, enfin en tout cas tenter de l'être, c'est en ça que ça peut être un peu dommage.
Mais pour résumer, le Groenland, en fait, c'est la dépendance toujours des Jeux Olympiques. Sur toutes, là. C'est comme, genre, la carrière va être en fonction de la sélection des Jeux Olympiques.
Bah après, oui et non. Tyler Spivey, elle a pas été au jeu la dernière fois. Évidemment, pour elle, c'est horrible. C'est hyper triste. Et en tant qu'athlète, surtout quand tu sais que t'as le niveau d'y être et que tu pourrais faire un top 10 si t'y vas, limite, c'est plus difficile de se qualifier que de faire une bonne place là-bas. Je comprends que ça soit hyper frustrant, mais à côté de ça, bah, il y a, c'est une course tous les 4 ans, t'as le temps de faire d'autres belles choses en attendant. Au pire, elle fera championne du monde si elle va pas au jeu. Enfin, elle ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Enfin, je veux dire, t'as toujours d'autres défis à côté. Nous, la chance qu'on a en triathlon, c'est qu'on a un championnat du monde tous les ans et pas tous les 2 ans, comme en athlée ou.
Mais il faudrait sport. Justement que ce soit plus valorisé, le championnat du monde, versus les Jeux Olympiques, en tout cas.
Oui, mais tu sais, c'est la rareté de la chose qui fait que les Jeux, c'est ouais. Les Jeux et tout le monde regarde.
Ben, ça fera l'objet, je pense, d'un autre débat qui serait intéressant à faire justement sur la valeur qu'on peut porter aux Jeux Olympiques et la valeur qui est portée même par tout le monde avec cette course qui a lieu tous les 4 ans. Pour moi, mes up and down, alors je vais commencer par mon down, ben, c'est la mort d'un triathlète pendant un entraînement en vélo. En fait, je connaissais un petit peu des gens de sa famille, donc je leur souhaite beaucoup de courage. A priori, ce serait un peu pâturance, une route étroite, une voiture qui arrive en face, le soleil dans les yeux, et puis un virage en courbe, et après, voilà. Donc, une vie qui peut s'arrêter. Il était papa et marié, et donc j'avais eu son petit frère sur un de mes stages, et donc c'est voilà, tout peut s'arrêter assez vite. Donc courage à toute sa famille. Donc ça, c'était mon down de la semaine. Et puis mon up, eh bien en fait, c'est l'anniversaire de notre cher président. Alors je souhaitais un très bon anniversaire à Cédric Gosse. et voilà, donc je lui souhaite le mieux. C'est mon up de la semaine et j'espère qu'il passera une très bonne semaine en nous écoutant. Donc Cédric, si tu nous écoutes, eh bien, bon anniversaire. Voilà.
Tu cherches un poste à la Fédé ou quoi, là?
Alors, je cherche à avoir un peu plus de contenu de la part de la Fédé. On va passer donc dès maintenant au débat de la semaine, un débat de la semaine qui sera animé par Monsieur Alexandre, et c'est parti.
Alors le débat de la semaine, si vous êtes bien informé du triathlon, etc., vous devez savoir que on se questionnait beaucoup sur l'avenir de la PTO et de son calendrier, que les dates étaient toujours pas annoncées, etc. Est-ce qu'ils ont lisent dans ma tête ou pas? Mais tout d'un coup, il y a eu un communiqué de presse qui est sorti pour dire que tout était sous contrôle, que un calendrier allait sortir, etc., mais que tout était un peu compliqué. Et toutes. Dans le milieu, le monde reste très sceptique sur la capacité à annoncer des dates très rapidement, surtout qu'à la base, il y avait une association avec World Triathlon qui fait en sorte qu'ils avaient promis 5 championnats continentaux, une grande finale, des groupes d'âge, etc., et que pour le moment, ben, on a juste 2 dates. Et l'autre aspect, c'est que la PTO, ils essayent de mettre sous contrat les meilleurs athlètes du monde, des athlètes qui veulent aller aux Jeux Olympiques, des athlètes qui sont champions du monde, Ironman, et qu'ils veulent leur faire signer un contrat pour avoir une sorte d'exclusivité avec un engagement sur 5-6 courses par an et toutes. Fait que là, en fait, est-ce que le triathlon est pris en otage? Parce que la PTO a tellement un impact sur Ironman et la WTCS, et que finalement, on n'a aucune idée si on va vraiment avoir un circuit. Vous poussez quoi de cette situation-là? Est-ce que vous pensez que tout est sous contrôle?
Moi, je te rejoins un petit peu, Alex. Je pense qu'il y a vraiment là un petit problème derrière des communications, des belles communications qui sont faites par PTO, parce que ça, c'est un domaine qu'ils maîtrisent assez bien. Mais ils se sont pris un petit rappel à l'ordre par World Triathlon il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi, non, ils ne seraient pas championnat d'Europe de triathlon longue distance. Et puis, on attend toujours les dates pour une organisation qui est censée justement améliorer la qualité de tout ce qui est suivi des pros, de leur permettre de mieux prévoir tout leur calendrier, d'être plus zen, etc. Ça va pas forcément dans le bon sens, je trouve. Et je pense qu'ils ont des petits soucis en fait à trouver des villes d'accueil et toutes les autorisations qui vont avec. En tout cas, c'est ce qui se murmure dans les réseaux bien initiés. Par contre, je pense quand même que ça va être une année charnière. S'ils arriveraient réellement à faire leur circuit, ça peut provoquer quelque chose de très bien. Si jamais ils n'arrivent pas à monter leur truc, je pense qu'ils perdront beaucoup en crédibilité. Et on le rappelle, à la base, PTO, c'est quand même une association qui était censée défendre les droits des professionnels. Et c'était pas une association qui était censée organiser des circuits privés et de mettre ça tout le temps en avant. Donc il y a beaucoup de choses. C'est un grand sujet, PTO. Mais concernant le calendrier, là, je pense que ça va devenir vraiment problématique pour les pros de caler leur saison, surtout comme tu l'as dit, pour les pros qui sont concernés par ce petit tour en fait privé.
Mais est-ce qu'il y a des pros qui ont finalement signé avec PTO, parce qu'il y avait ça aussi, ils étaient censés avoir un, parce que si t'as pas de date, enfin quand même ils ont signé, s'il y a pas de date, ils peuvent dire votre contrat il est caduque, de toute façon vous m'avez promis ça. Il n'y a pas de course, je compte plus sur vous et je vais faire mes propres courses.
Mais quoi. Si t'es pro et qu'on dit que t'as X courses, que les lieux c'est à peu près ça, est-ce que toi tu t'engages?
Oui, non.
Ça dépend du montant.
Oui, aussi.
T'as vu combien ils offrent, PTO aussi? C'est simple, hein. Si t'as 20K par course qui te sont offerts et plus la gagne, et etc., pourquoi tu dirais non? Tu peux peut-être te dire, ok, je vous fais confiance, j'y vais.
Mais je pense que c'est ça aussi, ils ont une grosse communication sur les réseaux sociaux. Moi qui suis pas trop longue distance, à part en mettant un peu le nez dedans avec le trichot, mais ils communiquaient tellement que tu te dis, mais ils ont l'air pro. Je veux dire, par exemple, la Super League, pour revenir à un autre circuit privé, ils communiquent beaucoup, mais tu sais que jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Ils n'ont pas dit, on va peut-être faire une course là-bas. Il n'y a pas eu. Bon, est-ce qu'il y en aura cette année avec Malibu, en l'occurrence, peut-être. Mais ils ont déjà... Ils retombent sur leurs pas, je pense, en trouvant d'autres endroits. Après, c'est aussi plus facile à organiser une course sur 4 km maximum en tour qu'une PTO, j'imagine. Mais moi, je sais qu'en tant qu'athlète, j'aurais pu... Bon, après, ça va peut-être très bien se passer. Hein. Mais j'aurais pu me faire avoir dans le sens où tu... Ils ont tellement une image qui a l'air clean, quoi, on va dire, que tu te fais un peu potentiellement avoir si jamais ça se passe.
Moi, je trouve que
tu
as raison de faire le parallèle entre la Super League et la PTO. Après, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que la Super League, c'était vraiment orienté professionnel. Et même si cette année, je trouve que les dates de la Super League et les endroits, ils ont été révélés assez tard. Je sais pas ce que t'en penses, Jeanne. Pour le coup...
On les avait eu l'année dernière.
Ok. Mais pour le coup, pour la PTO, ils ont vraiment un problème organisationnel à rassembler aussi énormément d'amateurs pour avoir un événement rentable, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Super League.
En fait, oui, à part si tu habites à côté, ils vont pas pouvoir mettre ou leur vac ou un budget pour partir loin, ou même pour la course, que je sais pas combien ça coûtera une course PTO, mais si c'est les mêmes prix que le label Ironman, c'est pas donné, quoi.
Il y a un enjeu financier. En fait, plus l'annonce va être tardive, plus ça veut dire qu'ils sont pas capables de faire de la surenchère, parce qu'en fait, ils demandent à des villes de payer pour avoir la course et ainsi de suite. Faut qu'ils fassent de l'argent. Fait que plus il y a pas d'annonce, plus ça veut dire qu'ils sont obligés de baisser le prix pour réussir à trouver des hôtes. Fait que déjà, c'est pas bon. Plus ça prend du temps, moins tu vas avoir le temps de remplir des groupes âgés, de groupes d'âge, etc. Et moi, ce que j'entends dans les bruits de couloir et tout, c'est que finalement, en fait, PTO, leur but ultime, c'est d'organiser des courses pour pouvoir avoir des groupes d'âge, faire de l'argent et tout, faire payer les villes. Mais vu qu'ils sont pas capables, ils vont se rattacher à des courses qui existent déjà, finalement. Fait que le revenu va être comme divisé par 2, 3, ainsi de suite. Même si on regarde sur l'aspect des pros, tu sais, on pensait qu'ils allaient donner des contrats à 20 pros à peu près. finalement, d'après les chiffres, ça serait même pas ça. Ils vont peut-être en avoir 12, 15. Et après, avoir une sorte de roll down pour les autres pros. Ils ont contacté pas tant de monde que ça pour donner des
contrats. Après, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas les 20 athlètes déjà coché, puisque ça permet à d'autres de pouvoir courir.
Ouais, mais leur concept, il commence à être cassé, parce que pour revenir à l'année dernière, où on a pensé que aux bourses qui étaient vraiment plus grosses, ils allaient avoir tout le temps les meilleurs athlètes à toutes leurs courses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup plus de mal qu'on pensait à remplir leurs courses. Et je pense que c'était une blague, parce qu'à chaque fois, il y avait des athlètes qu'on connaissait même pas, genre qui était 100e au classement mondial et qui réussissait à rentrer. Je pense pas que ça va être la même chose, mais c'est peut-être pas encore la promesse de l'événement, tu sais, comme complètement immanquable, qui surpasse Ironman et tout. Puis il y a une analogie, en tout cas une comparaison à faire qui est intéressante avec le golf en ce moment, parce qu'il y a comme une guerre aussi entre deux circuits, soit le PGA Tour, vraiment le circuit américain qui a fait ses preuves et tout, et le circuit LIV qui est une propriété de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils achètent des pros, 500 millions, 600 millions, ils ont offert 1 milliard à Tiger Woods, etc. Fait qu'il y a, au final, t'as un calendrier avec énormément de dates, et ceux qui aiment vraiment le golf et qui regardent le golf, face à tous ces événements-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, il y en a trop. Moi, je vais regarder juste les épreuves majeures. Moi, j'ai l'impression qu'en triathlon, en fait, on va être face à exactement ça. On est tellement en train de diversifier les distances et tout que le monde, ils vont faire, ben, moi, je vais juste regarder Ironman. Je vais juste regarder 2-3 courses parce que je veux voir le duel entre Blumenfeld et Frodeno. En tout cas, ça, c'était dans le passé. Qu'est-ce que sera dans l'avenir? Mais ça va être juste ça, en fait. Parce que on a le temps de s'intéresser à 5-6 courses par an et peut-être pas juste la PTO.
Et là, tu parlais effectivement des pros. Après, c'est vrai que pour les amateurs, ça met aussi un petit peu en porte-à-faux World Triathlon, qui s'était associé avec PTO, comme tu l'as dit, bah, pour proposer des titres continentaux. Normalement, donc, pour rappeler aux auditeurs, c'était les fédérations qui devaient fixer en fait les conditions d'accès à ces championnats continentaux. Là, en l'occurrence, comme vous l'avez dit, Jeanne et Alex, de se dire que c'est trop tard, quoi. C'est que on va arriver. L'annonce doit être faite début janvier du circuit. A priori, 6 courses minimum. Mais déjà dans une communication de décembre, quand tu connais pas le nombre de courses que tu vas avoir, c'est quand même pas en termes de communication ce qui se fait mieux. Quand tu dis minimum 6 courses, ça veut dire que tu sais pas s'il y en aura 7, 8, 6 peut-être. Mais c'est vrai que dans ton calendrier, ajouter un 100K comme ça qui va être championnat continental, et on ne sait pas l'impact que ça va avoir sur les autres championnats d'ailleurs, sur les courses World Triathlon, sur les courses nationales de chaque pays. Et là, je parle que des groupes d'âge.
Après, ils ont l'habitude, tu vois, World Triathlon, de faire ça avec les Coupes du Monde. Hein. Souvent, ils te sortent 7-8 Coupes du Monde. Et puis au final, à la fin, tu te retrouves avec, comme cette année, je crois qu'il y a 14 Coupes du Monde de prévues.
16.
Bon, bah voilà, ils ont augmenté. Tu vois, moi, j'étais resté à 14. Peut-être ils t'en ont sorti.
Après, pour le coup, là, Jérémy, là, c'est plus des Coupes du Monde ouvertes pour les pros qui en soi ne font que ça, donc bah ils s'adaptent. S'il y a plus de course là, ils iront à l'autre course. Là, c'était plus pour les age groupers. Bah comme on dit, tu dois poser tes vacances, t'as des enfants, faut que tu gères, bah est-ce qu'ils seront en vacances, est-ce qu'on va les poser chez leurs grands-parents, est-ce qu'on va les mettre en colo en même temps ou quoi. Du coup, c'est nous en tant qu'athlètes pro, je pense qu'on a, c'est chiant, ça c'est sûr, que ce soit pour gérer ton pic de forme, ton fitness machin bidule, mais en même temps c'est notre boulot, donc on va le faire. Autant les autres qui font ça par passion, ça va être mission impossible de s'organiser en last minute. Et d'autant plus qu'en fait, s'il n'y aura pas les dates de la PTO, ce qu'ils vont faire, c'est pendant un moment, ils vont hésiter et après, ils vont se dire « Ouais, mais attends, si la PTO, au final, il n'y a pas, vu que je ne me suis pas inscrit à l'Ironman qui est bouclé, il n'y a plus de place en 2 jours, bah si je ne me suis inscrit pas à cet Ironman parce que je voulais faire PTO, qu'il n'y a pas de PTO, bah finalement, je me retrouve avec 0 course cette année. » quoi.
Ah, mais je pense que c'est déjà trop tard de toute façon. Il n'y a plus personne, en tout cas pour la PTO.
Non, mais du coup, je pense que les gens, en fait, même si les dates vont sortir et qu'ils étaient dispo ou quoi, ils auront déjà pris des courses autre part, quoi, parce qu'ils ne vont pas attendre sur la PTO alors que les autres courses sont blindées en 2 jours. Tu vois, des trucs comme Gérard May, ils ouvrent les trucs, au bout de 10 minutes, le site, ils plantent et il n'y a plus de place. Donc PTO, ils ont beau croire qu'ils sont les meilleurs, il y a un moment les gens, il y a eu des courses qui existaient avant et C'est comme ce qu'on disait, les pros, on pensait que tous les pros iraient parce qu'il y a de l'argent. Certes, il y a de l'argent, de base, on fait pas du sport pour ça, mais évidemment, on gagne notre vie avec ça. Mais à côté, quand t'as le titre du champion du monde Ironman, que tout le monde pense que c'est le titre de champion du monde, tellement c'est implanté dans la tradition triathlétique du longue distance, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire, bon, allez, je mets de côté une PTO, puisque bon, de toute façon, il y en a d'autres, mais par contre, Kona, Nice, whatever c'est, où c'est, ils vont la faire, quoi. Donc, ils ont pas assez de passif pour être les leaders incontestés. Et d'autant plus avec ce qu'ils nous montrent maintenant, ils vont pas l'être avant quelques années, voire jamais.
Non, c'est clair. En fait, il faut faire attention, on a l'air négatif, mais je pense que tout le monde veut que le PTO réussisse, parce que clairement, ils remplissent un trou, etc. Mais la problématique, c'est qu'ils ont voulu aller trop vite. C'est ça qui est arrivé finalement avec World Triathlon, parce que ils ont fait une annonce avec World Triathlon qui était pas prêt. Sur les affaires d'argent et tout, ils ont vraiment voulu tuer le marché en faisant, il y aura juste PTO maintenant. Et c'est ça leur grosse erreur, selon moi. Surtout qu'il y a une affaire de conjoncture économique où l'industrie du vélo va ultra mal en ce moment. Les marques font même pas 50% des ventes qu'ils faisaient l'année dernière, Covid et tout. Aussi, les droits de télédiffusion, comme si on prend JCN+, service de streaming de Discovery, Eurosport, etc., qui a d'ailleurs de l'argent dans PTO, qui vient de fermer. C'est clair, là, il y a personne qui veut mettre beaucoup d'argent pour des sports qui sont développés. Il y a tellement de sports amateurs, etc., qu'offrent leurs courses gratuitement à ces diffuseurs-là, que pour eux, c'est super difficile de dire, on va mettre de l'argent dans PTO, d'un produit où on n'a pas assez de fans et tout. Fait que le modèle économique, il était sur un scénario où tout devait comme s'aligner, ou comme, il va y avoir de la demande, le produit il est vraiment meilleur, le monde va vraiment être fan parce qu'on va raconter des histoires. Mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à démontrer ça. Fait qu'ils y... en tout cas.
On va passer maintenant à notre invité de la semaine. Et puis, on va laisser un petit peu celui-ci se présenter. Allez, on passe à l'invité de la semaine. Alors, on accueille notre invité de la semaine, Laurent, le président du club de Liévin Triathlon. Salut Laurent, comment ça va?
Salut à vous, merci.
Peux te présenter rapidement à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Laurent Chevchek, 46 ans déjà, ouais, maintenant, et puis professeur d'éducation physique en collège depuis près de 22 ans, responsable d'une section sportive triathlon depuis 2009 au collège Jean Villard de Angres, et puis président du club de Liévin depuis 2004, donc ça va faire...
Est-ce que c'est l'objectif d'une vie pratiquement de devenir champion du monde? Non, champion de France de D1?
L'objectif d'une vie, non, j'espère que mon objectif de vie se résume pas à ça, mais oui, ça fait partie de nos objectifs, de mes objectifs. Je sais que le maire de Liévin attend ça aussi avec impatience. Il est toujours un peu frustré qu'on n'y arrive pas. Je sais que j'entame ma dernière année en tant que président. Donc 2024, c'est ma dernière année, ça fera 20 ans. Et on va essayer de tout faire pour y arriver, hein. Et puis après, si on n'y arrive pas, c'est qu'on était destiné à être poulie d'or forever. Et puis voilà, basta.
On t'accueille aussi parce que t'organises là en 2024 l'un des plus gros événements organisés en France, puisqu'une Coupe du Monde en France, c'est extrêmement rare. Vous avez réussi à obtenir un petit peu cette Coupe du Monde? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la genèse en fait de ce triathlon et comment vous êtes arrivé à cette obtention de Coupe du Monde?
Alors la genèse de ce triathlon, on la doit à mon homologue en fait, Laurent Philippe, qui a l'initiative de la création du club, qui est prof de PS aussi au lycée Henri Darras de Liévin, qui est responsable de section sportive aussi au lycée. Et nous, cette idée, pour vous dire, on était complètement cinglés à l'époque, hein. Le club s'est créé en novembre 2003, et je crois qu'en fin d'année 2004 ou 2005, on a présenté ce projet en fait à la directrice des sports de la ville, Madame Jacqueline Fouette, qui était vice-présidente aussi en charge des sports à la région. Donc elle a un peu halluciné parce qu'on venait de démarrer, tu vois, on était 10-15 pleu-pleu dans le club et on n'était pas connu et reconnu. Mais il y avait toujours cette idée parce que ce qui nous manque sur Liévin, c'est un étang, on va dire, digne de ce nom pour pouvoir organiser une belle épreuve de triathlon outdoor. Et par contre, on a un point fort, c'est l'aréna. L'aréna est mondialement connue par le meeting d'athlétisme, qui est numéro un mondial depuis des années. Par toutes les stars, que ce soit Muse, Tina Turner, AC/DC et ainsi de suite, qui sont passés dans l'enceinte pour y jouer leur tournée. Et puis donc on s'était dit bah, pourquoi pas utiliser cette aréna, mais dans un concept qui n'avait jamais été fait. L'idée c'était de monter un tournoi comme un tournoi de tennis, mais un tournoi de triathlon avec des qualifications, avec des repêchages si besoin, avec des demi-finales et des finales. Mais surtout sur des trucs très, je veux dire, courts, intenses, spectaculaires, où rien n'était décidé, en gros, du début jusqu'au dernier mètre de la course. C'est-à-dire que ce qui avait été fait auparavant à Bercy, à Bordeaux, en 93 et en 94, c'était des superbes initiatives. Mais en fait, quand tu le regardes, au bout d'un moment... pardonnez-moi le terme, mais tu te fais un peu chier parce que 400, bon, là, tu vois, ça passe... Je sais plus combien ils avaient à faire à vélo, mais ça devait être 10, il me semble.
Sur Vélodrome, ouais.
Sur Vélodrome. Donc, ouais. 10 bornes, c'est super long. Et puis leurs 5, 2 kilomètres et demi à pied. Donc, c'est pour ça qu'on est passé sur des distances, en fait, de 150 mètres de natation, 3 kilomètres de vélo et un pied. Pour rendre les courses plus attrayantes, plus dynamiques. Et surtout que on puisse réaliser tout ce tournoi, en fait, dans la journée aussi. Parce que c'était un peu cette idée-là, quoi. Et on avait aussi l'idée d'en faire un véritable spectacle sportif, c'est-à-dire d'en faire un show en plus du label qu'on obtiendrait. Donc, on avait fait des essais de par nous-mêmes, hein, de par des mecs qui étaient très costauds aussi à vélo, je veux dire, au sein de notre club, pour voir si ça passait. On savait que ça pouvait passer. On a profité de la réouverture de l'aréna après les travaux. Pour organiser une manche de Grand Prix de duathlon où on avait fait ça en semi-indoor, c'est-à-dire qu'on faisait passer en fait à chaque fois les vélos dans l'enceinte, ça courait, ça roulait dehors, l'aire de transition était au centre de l'aréna. Et puis on s'était dit que s'il y a des packs de 30 ou 40 qui rentrent dans l'aréna et qui en ressortent complets, je veux dire en faisant le tour, c'est qu'avec des mecs, avec des séries de 12 athlètes, ça passera aussi. Et c'est passé et il n'y a eu aucun problème. C'est pour ça qu'après on a décidé de postuler, on en a discuté avec la direction de l'aréna et on a postulé en fait pour un premier label qui était une Coupe d'Europe. Donc et c'était la première fois qu'une course, on va dire indoor, avait un label international aussi. Ça s'était super bien passé en 2019, même si on a eu des grosses frayeurs parce que je vous cache pas que logistiquement et financièrement c'est pas un triathlon qui est simple à monter. Vous montez un bassin de 25 par 15 sur un 50 de haut, vous l'aménagez, il faut qu'il soit chauffé, qu'il soit à bonne température pour les gamins, que vous commencez le montage le dimanche, il faut que le mercredi à 11h il soit à bonne température pour les 400 gamins qui vont suivre, les 400 premiers gamins qui vont arriver, sans compter les 1500 autres sur les deux journées suivantes. Donc il y avait un peu de pression quand même. Je vous cache pas que le premier jour, ils ont eu un peu froid. La température était pas, l'eau était pas à bonne température. Mais on a réussi à bien rectifier le tir et bien corriger la température pour la Coupe d'Europe du samedi. Ça s'était bien passé. On nous a demandé de réitérer la chose en 2020. On n'a pas pu, Covid oblige. Alors, on avait annulé l'événement, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, en fait, avant la date. On avait voulu reporter en 2021, on n'avait pas pu, Covid plus vaccinodrome au sein de l'aréna. Et on a remonté l'événement donc en mars 2022, en 3 mois et demi. C'est-à-dire 3 mois et demi, quand on nous a dit, bah, il n'y aura plus de vaccinodrome, vous pouvez y aller, on est reparti. On s'est remis d'accord avec Europe Triathlon, Et ils nous ont réinscrit au calendrier et on était reparti pour cette Coupe d'Europe 2022. Là, ça a super bien marché. On a fait quasiment le plein dans l'aréna. On a fait 4300 spectateurs. Donc c'était vraiment top. Il y a eu des super moments, une grosse ambiance vraiment sur les fins de course au moment des finales, voire de certaines demi-finales aussi. Et tout ça, en fait, ça nous a, enfin moi, ça m'a donné envie de, je vous dis pas tout de suite, hein, parce qu'après il m'a fallu au moins 2 mois pour m'en remettre parce que j'étais complètement séché. Et j'ai essayé de faire en fait un lien pour Paris 2024, sachant que Liévin était terre de jeux 2024, que l'aréna est centre de préparation aussi pour les Jeux Olympiques de Paris en tant que base arrière, quoi. Et d'ailleurs, il y a une délégation néerlandaise, l'équipe d'athlétisme des Pays-Bas en fait, qui va stationner pendant près d'un mois en fait avant les Jeux de Paris à l'aréna. Et je voulais qu'il y ait un fil conducteur en fait entre tout ce qui était mis en place par nos collectivités, le triathlon et les Jeux Olympiques de Paris. C'est pour ça qu'on a décidé d'un commun accord en fait, d'abord avec le maire, parce que au départ c'était le 20 janvier de cette année. Dans le bureau du maire, je lui dis voilà, on a deux options possibles, deux orientations. C'est soit Coupe du Monde, soit Super League. Qu'est-ce que tu préfères? Et là, il m'a dit on fonce sur Coupe du Monde.
Le maire, il sait c'est quoi une Super League?
Ouais, il est licencié au club. Ouais, il est licencié.
Ah,
il est licencié au club depuis pas mal d'années. Et
une Super League Arena, hein, tu voulais organiser ça?
Ah ouais, une super non, mais je voulais pas un Arena Games, moi. Non, parce que l'Arena Games, si vous voulez, on va en parler après. Pour moi, c'est un sketch. Donc,
mais t'étais en contact avec la Super League à ce moment-là ou
Ouais. J'avais pris contact, en fait, avec eux. Eux m'avaient contacté dans un premier temps avant 2022, puis on n'avait plus de son cloche. On s'était recontacté lors de la Super League à Toulouse, pas cette année, donc en 2022. En 2022. Et puis... Puis ça s'est pas fait parce qu'en fait il m'a mis deux carottes en gros pour lors de rendez-vous qui était prévu sur Liévin et au final après j'avais pas trop apprécié et donc je dis écoute c'est que ça devait pas se faire et donc ça se fera pas et je pense que c'est pas trop en fait on n'était pas trop sur la même longueur d'onde et on n'est pas trop en fait dans le même move en fait donc voilà et donc tout ça pour dire que c'est le maire qui a décidé qu'on partait en fait sur la belle Coupe du Monde. Et donc, on est parti là-dessus plein gaz, quoi, avec les différentes collectivités aussi. Et là, on est en train de bosser dur, très dur, pour ce projet. On a eu une visio d'un peu plus d'une heure tout à l'heure avec World Triathlon en début d'après-midi. Là, je suis avec vous ce soir. Ça s'arrête pas, en fait. Il y a plein de trucs. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'unique, de fort, de spectaculaire, tant pour les athlètes, que pour les spectateurs et les téléspectateurs.
Il faut savoir que Super League, quand tu veux organiser une Super League, il y a un petit peu d'argent qui est demandé par l'organisation. Est-ce que c'est la même chose pour World Triathlon? Est-ce que organiser une Coupe du Monde, World Triathlon te demande une participation en fait? Est-ce qu'il te demande du financier?
Ouais, t'as un agrément, ouais. Ouais, t'as ce qu'on appelle un agrément en fait. L'agrément, il est beaucoup plus conséquent que ce qu'on a connu au niveau d'une Coupe d'Europe. Je veux dire, faut savoir qu'une Coupe d'Europe, je veux dire, un agrément, il tourne aux alentours de 20 000 euros avec 10 000 euros de grille de prix. Là, on est sur un agrément à 103 000 dollars.
Est-ce que quand tu organises un événement comme ça, tu as un soutien de la FFTRI, que ce soit financier ou logistique, ou c'est vraiment le club de Liévin qui assume à lui-même toute l'organisation de l'événement?
Alors, tu vois, c'est une question qui tombe à pic parce que j'ai reçu un mail tout à l'heure de la fédération via Pierre Bordelot pour le citer, qui me demandait justement une date pour qu'on puisse travailler justement ensemble justement sur l'événement, sur les besoins, les attentes et ceci et cela, tu vois. Et donc il y a une réunion qui va se caler début janvier avec la fédération. Voilà. Alors après il y a une aide financière qui est donnée, mais qui est minime par rapport au coût, je veux dire, de notre événement.
T'arrives à organiser une Coupe du Monde, toi, tu vois, en France, avec de la diffusion télé, avec DJ, etc., une ambiance de fou, 4000 personnes, comme tu nous dis. Quelle vision tu portes sur les grands prix et pourquoi on n'arrive pas à faire, tu vois, des grands prix de D1 qui, comme tu vois, comme avant, tu vois, qui arrivent à attirer du monde. Il y a une diffusion, mais qui est très légère. Qu'est-ce qui manque, selon toi, là, pour le triathlon français, pour dynamiser? Toi, là, t'es un des acteurs qui dynamise justement un petit peu ça en amenant une Coupe du Monde. Qu'est-ce qui manque, selon toi?
Ouais, après, j'ai aussi un rôle de représentant des clubs aussi de première division aussi, avec Christophe Huet d'ici les Moulineaux. La première chose qui peut nous aider et qui peut garantir, je veux dire, un super grand prix, c'est la date de ce grand prix. C'est si vous avez une bonne date, si c'est bien placé, vous avez davantage de chances de récupérer un super plateau. Alors après, on va rentrer toujours dans les mêmes aussi, on peut rentrer dans les mêmes discours, à savoir, et c'est le discours aussi de pas mal de clubs, que la grille de prix est pas suffisante pour contenter les athlètes, pour faire en sorte que les clubs puissent ramener, je veux dire, peut-être du niveau supplémentaire. Quoique le niveau, je trouve que le niveau, il est très bon. Le niveau, on a eu des courses, je veux dire, quand même, de grosse densité sur ces deux dernières années. Si je reprends par exemple la finale de Saint-Jean-de-Mont de l'année dernière, on a quand même eu 4 mecs qui ont couru le 5000 derrière et 5-0 en moins de 14 minutes. Ça se gagne en 13-52, je crois, de mémoire. Dire c'est un niveau qui est monstrueux, et ils ont pas fait un vélo à 25 km/h de moyenne avant, hein. Donc ils se sont quand même employés, donc le niveau est là. Ce qui manque, je pense, et je pense qu'ils sont en train d'y travailler. Ils travaillent, c'est une communication, on va dire, plus ciblée sur le Grand Prix. Le problème, si je fais le comparatif entre le Grand Prix et la Super League existe toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, sur les réseaux, vous allez en entendre parler. Vous allez les voir. Même s'il se passe rien. Mais vous allez voir, vous allez revoir des choses de l'année qui vient de s'écouler, voire même des années précédentes. Et ils vont vous trouver des sujets qui peuvent être même bidons, mais ils en parlent et on en parle. Le Grand Prix, le problème du Grand Prix, je trouve actuellement, c'est qu'on en parle, mais juin, juillet, août, c'est les vacances, on n'en parle plus, et on en parle en septembre. C'est-à-dire que sur 12 mois de l'année, on en parle 3 mois, ou 3 mois et demi. Et je pense que c'est le manque. C'est un des manques.
Il y a aussi la difficulté à chaque fois d'avoir les start lists longtemps à l'avance et tout, et de vraiment savoir qui va être là, t'sais, dans le sens.
Non, mais après ça, c'est le problème de la com à l'instant T, mais il y a des choses que tu peux gérer. Pour le coup, il y a plein de... Enfin, là, on va partir sur un débat des Grands Prix, mais rien que le fait que quand t'as, je sais pas, le run and bike championnat de France en même temps qu'une D1, tu vas sur le Insta ou le Facebook, n'importe, de la Fédé, et tu vas avoir à cheval un peu de Grand Prix, un peu de run and bike, un peu de raid, machin truc. Enfin, t'es à la limite, fait un compte juste pour le Grand Prix, mais là, c'est vrai que ça ressemble à rien,
c'est ce qui est en projet. Normalement, il devrait y avoir plus ou moins un site, tu sais, dédié justement au Grand Prix.
Même Max, ce qu'il disait vite fait la semaine dernière, qu'il y ait des réels, des trucs un peu dynamiques pour interagir avec les gens, quoi. Enfin, pas forcément interagir avec, mais leur proposer du contenu. Mais pas forcément des trucs de fou, genre des interviews inside, machin truc. Juste au moins des images de la
course. Non, mais un site internet, c'est bien, mais c'est quand même un peu old school. Comme ils disent, c'est bien de faire vivre le Grand Prix, de raconter une histoire, de la pérenniser dans le temps, des réels, des stories, une continuité. Et pourquoi pas s'attarder aussi sur des athlètes qui sont là sur plusieurs étapes que tu peux reconnaître, parce que des Alexis ou des Aiden Wald, on sait qu'ils vont pas pouvoir venir à toutes les étapes. Quand ils sont là, on fait un focus de fou sur eux, mais en attendant, on peut se concentrer sur des athlètes pourquoi pas français. Je pense à des athlètes comme Audrey Merle, côté féminin, qui fait aussi tous les grands prix. Hormis moi, t'as quand même des Louis Vitello, Nathan Grayel, ou Yannis Seguin, qui sont quand même là assez souvent sur les grands prix. Nathan Lesman, et il y a aucune histoire. Pour l'anecdote, sur la finale des grands prix de cette année à Saint-Jean-de-Mont, c'était le dernier grand prix d'Anthony Pujade. Et franchement, il n'y a aucune histoire sur lui. C'est quand même un vainqueur de grand prix. C'est quand même un mec qui est là depuis une quinzaine d'années. Comment ?
Devant Brunelie en plus, non?
Ouais, non, mais il a fait plusieurs podiums, il a fait des gagnes devant les frères Brunelie, devant des grosses stars. C'est quand même un acteur dans le temps qui a été et qui a marqué l'histoire du Grand Prix. Et au final, bah voilà, il est parti comme ça, quoi. Et il a fini sa carrière. On en a peut-être le speaker en a peut-être parlé au micro, mais voilà, ça s'est arrêté là. Et puis il y a pas d'histoire sur le Grand Prix. C'est vraiment dommage. Et c'est un bijou et qui est pas taillé.
Il y a une
quoi.
Histoire, mais qui est pas racontée ni mise en
exactement,
valeur.
Exactement, exactement.
Comme Montoy l'année précédente. Hein.
Exactement. Ouais, juste
vraiment,
un appel au micro et puis c'est tout.
Faire, quoi. C'est ça qui est dommage.
Et pendant qu'on est sur les Grands Prix, Laurent, ça représente quoi le budget à peu près d'une D1 d'une D1 pour un club comme Liévin? Comment vous organisez ça, tu vois, sur les déplacements, sur le recrutement d'athlètes, etc.
Bah attends, je suis en train de réfléchir un petit peu. On n'a pas fait les comptes de 2023 encore. GG, il est dessus là. Il va envoyer. Je pense qu'on a pu. On va voir. Ce qui est sûr, ce qui va nous plomber un peu et peut-être nous faire réfléchir pour l'année prochaine, c'est le coût de transport et d'hébergement. Là-dessus, je sais qu'on a pris en moyenne entre 25 et 30 % par rapport à l'année précédente, mais sans langue de bois, moi c'est un budget qui tourne aux alentours de.
Vous donnez une fourchette, hein, t'es pas au centime.
140 000 euros, je pense, à peu près 130. Tu vois.
Est-ce que tu penses que c'est un modèle économique qui est tenable? Parce que.
Non, on est toujours de toute façon. C'est... Nous, on est tributaire. On va d'abord. Alors, pour arriver à ça, il faut rentrer dans des cases. En tout cas, chez nous. C'est-à-dire que on est principalement aidé, on va dire, par nos collectivités. C'est pas nos partenariats privés qui vont nous donner ces sommes-là. Mais il n'y a pas que du privé dedans. Enfin, que du public, hein, j'entends dedans. Maintenant, sans nos partenariats et nos aides publiques, j'entends la ville de Liévin, le département, la région, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, je veux dire, on serait pas à ce niveau-là. Mais faut rentrer dans des cases, c'est-à-dire que pour y arriver, faut crapahuter pour déjà se taper de la D3 passer à la D2 sans trop de moyens, de la D2 parce qu'on sait ce que c'est que la D2, on y a passé quelques temps aussi en ayant les meilleurs régionaux, en faisant appel à un tel ou un tel aussi pour espérer y monter, où on avait loupé le coche, je veux dire plusieurs fois, et on avait pas mal de malchance. Et puis après, je veux dire, il y a eu fin 2012 et puis l'arrivée de Lolo qui nous a permis d'y accéder et d'y goûter, et de nouveau après Dada après pour revenir. C'est un long chemin, et donc après. Voilà, t'as des grilles, en gros, t'as des grilles de prix aussi. T'as des grilles d'attribution de subventions en fonction de ton niveau. Faut réussir à y rentrer. Et dans ces grilles d'attribution, tu dois encore avoir un autre niveau pour pouvoir prétendre aussi à d'autres grilles. Donc, c'est ce qui te permet d'avancer, de te maintenir, et de pouvoir faire aussi tout ce qu'on fait. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Nous aussi, on est, il faut savoir que cet argent-là ne va pas entièrement, en fait, aussi au Grand Prix. Il y a aussi ce qu'on fait dans l'année, en termes d'organisation, parce qu'en plus d'être un club, on va dire, formateur aussi au travers de l'école de tri, des plus de 110 gamins qui sont chez nous, t'as les élites, ok, c'est super, c'est une partie, on va dire, c'est une branche de l'arbre. Après, il y a tout le socle, c'est-à-dire que t'as tout ce qu'on appelle, vous l'appelez les groupes d'âge qui sont là, qui font le club aussi, qui le font vivre, qui le développent. Il y a les entraîneurs qui sont là, il y a les jeunes qui sont là, à qui il faut mettre quelques paillettes dans les yeux, je veux dire, au travers de ces gens-là aussi. Et quand ils viennent, ben c'est clair que nous, ça nous fait plaisir parce qu'on les voit pétiller aussi, et ça, c'est le top. Et ça crée des envies aussi. Et en fait, voilà, c'est nous, on l'englobe dans un tout, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des fois, il y a une partie, on va dire, de ce budget-là qui va servir au développement, si tu veux, à d'autres, tu vois, aussi. Mais ça nous permet de nous développer davantage et de nous
parce
structurer
aussi. Parce que c'est
davantage.
Un investissement-là que tu fais en D1. Ce que tu peux nous parler, c'est finalement des retombées, dans le sens que ça a forcément un impact sur le club. Est-ce que cette participation en D1, elle vient vraiment motiver tes jeunes à vouloir devenir élite? Tu sais, j'imagine que pour un jeune, ça doit être.
Alors, il y en a certains, pardon de te couper, c'est vrai que ça les motive. Un de leurs kiffs, c'est de, c'est de rentrer même en U23, je veux dire, dans l'équipe et pouvoir se foutre en gros dans la camionnette à côté d'un Eden Wild, d'un Javier Gomez, de prendre le départ avec ces mecs-là, de prendre le petit-déj avec ces mecs-là, d'aller s'entraîner, d'aller s'échauffer avec eux. Enfin voilà, tu vois, c'est tout ça en fait. Et c'est ce qui est génial entre guillemets aussi dans notre sport, c'est de pouvoir faire vivre ces expériences-là à des jeunes en devenir, quoi, peut-être aussi. Parce qu'on sait que le chemin est long et que c'est pas fait non plus, mais ça au moins ils auront eu le mérite d'y arriver et ils auront eu, je veux dire, le mérite. Et nous on leur aura donné la possibilité aussi de vivre cette expérience de vie là aussi. Et ça, je trouve ça intéressant et important.
Hormis de pouvoir s'asseoir à côté d'athlètes comme Eden Wild ou d'autres internationaux, c'est aussi intéressant pour les jeunes athlètes d'apprendre aussi à leur contact. Voilà, Jeanne comme moi, on a été dans des clubs où quand on était plus jeune, on était vraiment au contact des stars du triathlon international. Et voilà, le fait de partager la veille de course dans la même chambre qu'un athlète qu'on admire et qu'on voudrait imiter les performances, voilà, ça nous permet aussi de passer un step, d'avoir des conseils et de voir vraiment ce qui peut faire la différence en dehors de la course.
Ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord, je te rejoins et c'est une des je dirais des parties aussi qui est motivante dans ce qu'on fait aussi au travers de la formation. C'est-à-dire, moi, tu vois, je les ai en collège, Lolo, il les a en lycée après. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Paulin Philippe, le fils de Laurent, qui a fait plusieurs D1, de Mathis Lacroix aussi, de son frère Hippolyte qui nous a rejoint cette année, tu vois, je veux dire, sur Bordeaux, sur la finale également. Enfin, voilà, les mecs, ça leur permet de passer des caps, de passer des paliers. Après, sur des championnats de France jeunes et tout le truc, et ils disent, putain, ouais, ça m'a fait du bien, tu vois, d'aller me frotter au loustic la fois dernière sur le Grand Prix, ainsi de suite. J'ai appris des choses, c'était top, le rythme pas le même. Enfin voilà, tu vois, c'est plein de détails comme ça qui sont hyper intéressants pour eux et formateurs. Parce que n'en déplaise peut-être à certains, le Grand Prix pour moi est formateur.
Est-ce que c'est pas sa vraie mission finalement d'ailleurs ?
Dans l'accessite au très haut niveau. Il est formateur, même si je veux dire, ça reste des courses de très très haut niveau.
Tu sais qu'il y a un pour revenir sur sur le Grand Prix. Tu parlais tout à l'heure que c'était un endroit très formateur pour les jeunes. Tu sais qu'il y a un débat ces dernières années au sein du Grand Prix où les meilleurs athlètes disent que voilà, il y a trop d'athlètes au départ et ça freine certains étrangers à venir sur les manches parce que voilà, ils ont peur. On est trop dans des packs sur des parcours des fois un petit peu dangereux pour le nombre d'athlètes qu'on est dans chaque pack. Et d'un autre côté, voilà, t'as les clubs qui veulent mettre de plus en plus d'athlètes supplémentaires au départ, ce qui nous fait des fois des start lists à 110, 120 athlètes comme on a pu le voir. La stratégie à la FF3, elle est pas très claire. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire du Grand Prix un produit de formation pour nos jeunes Français? Jeanne et moi, on en a vraiment bénéficié et c'est génial. Ou est-ce que ils veulent vraiment en faire la vitrine du triathlon international en France? Toi, qu'est-ce que tu en penses et quel serait ton avis vers quoi il faudrait s'orienter?
Option 3, ils n'ont pas de stratégie.
Et non, mais clairement, la stratégie n'est pas claire. Je pense qu'ils en ont pas non plus. Et pour avoir posé la question, je pense que c'est le cas, mais j'aimerais bien savoir ce que Laurent en pense et vers quoi il aimerait s'orienter. Puisqu'il fait les deux. Alors,
je vais d'abord vous dire qu'on a mené notre enquête, en fait, avec Christophe Hué d'ici les Moulineaux, puisqu'on est représentant, comme je disais tout à l'heure, on est représentant des clubs de première division. On a fait un sondage sur divers points auprès de tous les clubs de première div et deuxième division pour nous remonter, on va dire, les différents sujets qui avaient été soulevés par la fédération concernant l'évolution du Grand Prix. Parce qu'il y a un projet d'évolution du Grand Prix. Donc nous, on a retourné, on va dire, à la fédération ce qui nous avait été remonté. Et ces différents sujets, ces différentes réponses, je veux dire, vont être présentées aux élus, aux bureaux, aux techniciens, fédéraux, et eux vont revenir avec des propositions suite à ces réponses, on va dire. Donc, le problème du nombre a été soulevé, le problème du nombre de clubs au départ a été soulevé, le problème du nombre d'athlètes de l'équipe a été soulevé. Est-ce qu'on s'oriente vers un 5 majeur? Est-ce qu'on s'oriente vers un 4 majeur? Est-ce qu'on fait, on garde les 3 U23 parce que t'es 3 étoiles? Est-ce qu'on en garde que 2 maximum? Est-ce qu'on en garde 1 en fonction, tu sais, du niveau de labellisation des écoles aussi, et du niveau aussi du U23 qui sera sur la start list? Parce que ça aussi, c'est à prendre aussi en considération aussi. Donc tout ça, c'est dans les tuyaux. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Ils sont en train d'y réfléchir. Nous, on va être de nouveau conviés aux discussions suite à aux propositions qu'ils vont nous faire. Et on pourra plus en débattre, je dirais, à l'issue de ça, tu vois. Maintenant, moi, mon avis, c'est compliqué là parce que.
Est-ce que tu vois la lumière?
Moi, j'adore ce championnat de France des clubs. Je veux dire, j'adore ce championnat de France des clubs parce que je prends un pied énorme, en fait, à être sur ce championnat de France, à accompagner, à construire, à vivre. Les courses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais je veux dire, je prends vraiment mon pied là-dedans. Et tous les gens qui viennent voir, des fois, simplement pour la première fois, du triathlon direct, je pense à moi, j'avais des personnes de la famille quand Dunkerque avait lu encore, je veux dire, qui venaient, qui assistaient à ce truc-là, ils se disaient, mais c'est vraiment un truc de dingue. Et ils adoraient suivre, en fait, ce truc. Il faut garder cet esprit. Alors, c'est compliqué parce que il faut garder cet esprit club, je pense. Il faut prendre en considération aussi une dimension. Donc, il faut prendre en considération une dimension club. Il faut prendre en considération une dimension haut niveau. Et il faut prendre une dimension sécurité aussi en compte. Et tout ça, c'est pas évident, je pense, parce que, comme je disais tout à l'heure, je vais penser aux clubs qui sont en bas de tableau. Si on réduit, t'as certains clubs qui ont des employés, des entraîneurs employés, ceci, cela, qui, s'ils descendent, vont voir leur niveau de subvention, en fait, fortement réduit, voire complètement annulé. Tu vois, t'as certaines régions, t'as certains départements. Je veux dire, c'est si vous êtes au top niveau, c'est-à-dire National 1, Division 1 ou un truc comme ça, vous avez quelque chose. En dessous, vous avez que dalle. Nous, on a la chance d'avoir un minimum encore, même si on descend d'un étage. D'accord? Et ça engendre plein de bouleversements au niveau des clubs et au niveau de leur fonctionnement derrière. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix stratégique de la fédération. Comme tu le disais, Jérôme, tout à l'heure, c'est est-ce qu'on vise vraiment un top niveau et à la limite, pourquoi même pas s'orienter vers un pro tour, hein, quelque part, au Grand Prix dans ce cas-là. Si tu pousses le truc à l'extrême, on peut même imaginer un grand prix type pro tour où t'as vraiment que des équipes pro, enfin entre guillemets pro, avec une licence, un truc comme ça, et puis on s'engage pour la saison avec peut-être des risques de montée et descente ou pas, ou un classement général, mais et où ça fait le show avec les meilleurs athlètes possibles et ainsi de suite. Moi, ça fait en plus de ça, ça fait plusieurs années que je propose, et là vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça, vu l'augmentation des épreuves, les athlètes courent de plus en plus à droite, à gauche, enfin voilà, avec tous les risques que ça engendre aussi. Moi, je serais pour, en fait, attribuer des points ITU, en fait, sur les Grands Prix. En fonction, je veux dire, de la start list, tu aurais, en fonction du ranking des gars et des filles qui sont sur les start list, tu aurais un certain nombre de points potentiellement à gagner, tu sais. Et moi, je vois pas pourquoi ce serait pas possible d'essayer de se battre pour arriver à ça, compte tenu des années, en fait, et de l'historique de ce Grand Prix et du niveau de ce Grand Prix, alors que, je vais rebondir sur
mais,
la Super
mais ça, je pense que c'est fini,
le vainqueur de l'Arena Games, je veux dire, il prend 500 points ITU.
Non, mais ça, nous lance pas là-dessus.
Non, mais...
Nous lance pas là-dessus.
On n'est pas très fan de l'Arena Games ici, de toute façon.
Non, mais voilà.
Pour moi, c'est aberrant qu'on donne des points.
J'étais sur le cul quand j'ai appris ça, parce que je me suis dit, mais c'est inadmissible, c'est pas possible. Sans compter en plus tous les bugs et les conneries et les bugs techniques qui existent et de connexion, j'en passais des meilleurs parce que moi j'ai assisté à Rotterdam. C'était le premier jour, le premier week-end où on avait le droit de sortir à l'issue du Covid. J'étais assisté à aller encourager en fait à Loïs Nabel. Donc avec Lolo, on a pris la camionnette, on s'est tiré tout de suite à Rotterdam parce qu'on n'en pouvait plus. Donc on est parti là-bas, on a assisté à un truc, mais c'était un sketch. En fait, c'est fait pour la télé tout le truc, mais vous voyez pas tous les bugs et toutes les conneries qui s'y passent entre deux, hein, parce que ça c'est pas montré. Hein. Mais enfin voilà, pour moi ce serait un combat à mener, je veux dire, et ça permettrait peut-être de valoriser encore plus le Grand Prix, de mettre plus de donne aussi quelque part dedans, parce qu'il y aurait pas que la grille de prix, tu aurais des points aussi à aller chercher, tu courrais pas entre guillemets que pour le club et pour le prize money derrière que tu as. Et moi, je trouverais ça... Enfin, moi, ça me choquerait pas et je trouverais ça légitime, en fait.
Moi, je pense que c'est impossible de monter ça parce que c'est vachement déjà discriminatoire dans le sens où pourquoi le circuit français pour attribuer des points, pas le circuit espagnol, mais... pas la Bundesliga, etc.
Alors, attends, je vais rebondir parce que ça, c'est... Non, mais attends, parce que ça, c'est une question que j'ai soulevée, moi, à Enrique Quesada de la World Triathlon. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, c'est pas équitable.
On a vu dans sa parade.
On distribue 500 points au vainqueur. Lors de la finale, à Lionel Sanders, c'est équitable par rapport à d'autres? Un autre pimpin qui est sur le long ou je sais pas trop quoi, qui sait qu'il va se prendre une rousse, mais simplement parce qu'il a un contrat avec Garmin ou autre et puis qu'il faut lui montrer des photos et puis lui faire sa pub pour que l'autre il puisse toucher son chèque à la fin. Vous trouvez ça équitable? Mais les mecs, ils y sont quand même. Donc il y a une sélection qui est faite, naturellement. D'accord dans le truc. Mais on leur file des points quand même. Et ça pose pas de problème. Et ben, moi, ça me gêne.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Ouais, mais après, c'est une discrimination quelque part qu'il faut en créer une nouvelle.
On est d'accord, mais c'est juste que là, ça favoriserait une fédération. D'un point de vue, une fédération nationale qui serait favorisée par rapport à une autre. Mais je te rejoins, enfin, je suis d'accord avec toi. On est tous d'accord, je pense, ici, autour des Arena Games et de l'ITU. On a bien entendu, en tout cas, ta proposition. Pour ceux qui nous écoutent, ce serait bien de lancer un petit sondage sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition pour dynamiser un petit peu le Grand Prix français et de mettre des points ITU à la clé? Ça peut être un sujet qu'on abordera aussi, je pense, dans un débat un peu plus longuement. En attendant, je voudrais juste rappeler la date de ton événement, Laurent, donc du 27 au 30 mars avec la grande finale.
C'est ton anniversaire. Le 30. Et alors?
Eh, pas mal.
Le 30.
Ah, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier?
Mais
viens chez nous. Mais arrête.
Je suis nul en piscine.
Est-ce que tu peux nous donner déjà en avant-première peut-être des grands noms qui vont venir sur l'indoor, ou est-ce que tu n'as pas encore arrêté des stars, ou tu as déjà quelques confidences à nous
faire? Est-ce que tu as accès aussi?
Qui gère, moi après j'ai des contacts avec quelques-uns.
C'est qui gère les inscriptions.
Bon, je sais que Vincent il est chaud. Vincent il est chaud pour revenir, ça c'est clair.
Et Vincent Louis va revenir.
Il avait dit parce qu'il avait kiffé à fond le truc, c'est ce qu'il m'a dit, et donc s'il est opérationnel, il revient. Ça, c'est clair. Moi, j'ai discuté avec Aiden aussi. Je sais que après Abu Dhabi, il revient en Europe sur Andorre. C'est ce qui est prévu. Et donc, logiquement, il peut être de la partie. Il y en a beaucoup qui ont eu, qui ont eu peur, qui étaient réticents, qui ont eu peur avant la première édition. On a des athlètes comme Nina Heim, dire qu'on fait la première édition, on fait la deuxième édition, et qui sont prêts, je pense à Yolien Vermeulen aussi, qui attendent que la troisième édition revienne, quoi. Tu vois? C'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer par rapport à notre événement. L'événement plaît, je pense que l'ambiance qu'il y a, et c'est surtout, je pense, le rapport de proximité qu'il y a aussi avec le public par rapport à une autre arène, en fait. Le point fort de l'arène Stade Couvert de Liévin, c'est la proximité du public par rapport aux athlètes. Je veux dire, que ce soit en athlétisme ou là en triathlon, Cette config, en fait, elle est quasiment unique. Et vous avez retrouvé ça rarement, même dans les plus grands stades, en fait, indoor, je veux dire, pour les compètes d'athlètes que vous pouvez suivre sur le World Tour. Je veux dire, vous ne retrouvez pas une configuration comme ça et vous ne retrouverez pas une ambiance et une proximité telle. Et c'est ce qui fait le point fort. Et on a voulu se servir aussi de ce point fort-là pour notre
aide. La billetterie est ouverte pour aller un petit peu dans... Pour te taquiner un petit peu, j'ai vu quelques reproches sur les tarifs.
On va prolonger.
Tu vois où je vais en venir.
Alors, je vais y venir. D'abord, on va prolonger l'offre de Noël. Ouais. On va prolonger l'offre de Noël parce qu'on avait fait une offre à moins 30% en fait, là, durant le week-end, et on va la prolonger jusqu'au 24. Voilà. Donc ça va être mis en route normalement ce soir.
Et ben voilà, ça c'est une super Noël. Et moi, je voulais en venir aux tarifs pour les jeunes. J'ai vu quelques personnes qui n'étaient pas forcément contents de voir des tarifs où il fallait faire payer jusqu'à 12 ans 10 euros et au-dessus de 12 ans, c'était 20 euros. Ils trouvaient ça un petit peu cher.
Quoi ?
Qu'est-ce que toi, tu as arrêté ?
Ah, mais les Français, vous êtes fous, hein ?
À toi que je demande ça, Alex, et à Laurent.
Ah, mais non, mais venez vivre en Amérique du Nord, là.
Les Français aussi, d'ailleurs.
Le monde, ils payent $500 pour aller voir un match de hockey, là. Non, mais... Le prix, pareil pour les enfants.
Ah, mais tu voulais dire que c'est pas cher, toi.
Bah non, 10 euros pour un enfant, c'est quand même pas fait. Déconner. Je veux dire, c'est un coût. Si on amène juste des enfants, c'est comme
en fait, on a eu, de toute façon, ça, là, on n'a pas eu le choix. Alors, vous voyez, je vais rien vous cacher. Cet événement, c'est un événement qui coûte, là, au bas mot, entre 430 et 450 000 euros. Donc, à un moment donné, nous, petit club de triathlon du bassin minier, et sans pratiquer des tarifs exorbitants, parce que je vais prendre l'exemple du motocross qui a eu lieu à Liévin il y a 3 semaines de ça, c'est 45 balles la place, hein, et t'as pas de différence de tarif, je veux dire, en fonction de l'âge, hein, c'est 45 balles. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on retombe un peu sur nos pattes. Et quand tu vois les tarifs, donc je te parlais de 45 balles, après, je vais prendre l'exemple, je veux dire le meeting d'athlé, mais après on peut pas se comparer parce que il y a un historique avec eux. Je veux dire, ils sont numéro 1 mondial depuis des années, ils ont un plateau de fou. À un moment donné, vous allez voir, je veux dire, du top niveau mondial quand normalement peut-être chez nous, et quand vous allez voir un plateau meeting, je veux dire, c'est vous avez Ingebrigtsen, vous avez des médailles olympiques, des recordman du monde, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est un peu logique quelque part.
Ouais, mais attends, dès lors que Jeanne va finir par venir, les billets vont se vendre au marché noir 3 fois plus cher, 4
non,
fois
non,
plus
non,
cher.
Non,
tu vois mon influence un peu plus grande qu'elle ne l'est vraiment,
ah non,
je crois.
Non, mais le réel problème, c'est que les gens, en fait, ils ont l'habitude de pas payer pour voir un triathlon, sauf que là, tu viens dans une enceinte donc fermée, et tu as par contre accès à l'épreuve en continuité. C'est pas, t'es au bord de la route et tu les vois passer 2 fois en 1 heure. À 60 à l'heure ou à 20 à l'heure en courant. Là, t'as vraiment accès, même pourquoi pas aux inside, tu les vois se préparer, etc. Et clairement, c'est pas si cher que ça, il faut pas déconner. Quand maintenant tu payes une place de cinéma à peu près 10 euros pour aller voir un film d'une. Voilà. Non, mais voilà, on peut comparer les prix et tu regardes un film qui va durer 1h30. Là, t'es là toute la journée et puis tu vois plusieurs manches. T'as l'opportunité de te reposer, de faire une petite pause et tout, et de voir ça, alors que le film il t'attend pas, il défile. Et moi je trouve que voilà, c'est pas si cher, c'est juste que tu bouscules un petit peu les codes du spectateur du triathlon qui a l'habitude de pas payer, et que pour lui ça va lui faire mal au porte-monnaie de payer pour la première fois pour un triathlon, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture. Après, au Luxembourg, pour le coup, tu payes, hein, même quand c'est des tri dehors, bon, c'est genre 2 euros, mais je sais que j'en ai fait quelques-uns à l'époque à Weissenspar-Echtenar, et l'athlète, tu payes pas, mais ma mère, elle m'accompagnait forcément, et elle payait son petit 2 euros, et après...
Championnat de France de cross, tu payes 10 ou 15 balles.
Hein. Exactement, c'est l'exemple que j'allais prendre. Alors que c'est un sport dans le sens où t'es en mode tradi, en mode tout le monde est dehors, sur les côtés.
Et tu te prends la pluie, voilà, en plus. Cadeau.
Là, c'est vrai que le mec, il va prendre son ticket. Alors, on a 3 tarifs. Donc, c'est vrai qu'on a des tarifs à 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans. On passe à 20 euros, 12 ans et plus, en placement libre. Et puis après, on a fait un access, en fait, VIP, avec prestations, boissons et repas en fait à 60 euros aussi, qui est pas, je trouve, qui est pas cher non plus, qui est accessible. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est pas moi qui vais préparer, donc ça va aller. Vous avez aussi, faut pas oublier que tous les athlètes en fait des courses open, dans leur inscription pour la course open de la journée, ils ont leur ticket aussi. Les enfants ont leur ticket, on va dire, offert, qui fait partie du pack, et on offre une place pour un parent accompagnateur.
Bah c'est top aussi. Ça, parce que déjà ça fait du monde qui vient voir et du monde qui participe.
Voilà. Donc ça veut dire qu'on prend pas, on prend pas l'argent, on va dire sur environ 400 personnes, tu vois. Dans le truc.
Bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas encore convaincus, je pense que c'est fait maintenant. Rendez-vous donc sur le site de la billetterie de Liévin, liévintriathlonindoorfestival.com, et vous avez l'onglet billetterie, donc le 30 mars et avant, les jours d'avant, à partir du 27, triathlon scolaire, etc.
Et n'oubliez pas de me souhaiter.
Merci en tout cas, Laurent, pour ce temps passé avec nous. Encore une fois, félicitations pour l'attribution déjà de cette Coupe du Monde. Et ça devrait être un beau festival et une belle fête du triathlon du côté de Liévin le 30 mars. Tu restes avec nous pour le quiz ?
Allez, c'est parti. Et puis, on fera un débrief après le 30 mars, si vous voulez.
Allez. Alors, le quiz du trichot, c'est assez simple, plusieurs questions, c'est des questions de vitesse, où il faut trouver quelqu'un, quelque chose, une ville, etc. Donc, c'est assez simple avec la première question il va falloir trouver, ça va être une question de rapidité, il faut trouver une personnalité. Alors, je suis né à Cologne, en Allemagne, en 1981. Je grandis cependant en Afrique du Sud.
Yann Frodeno.
Ah ouais, j'allais dire.
Bingo, bingo.
Non, mais je
croyais
qu'il était né en Afrique du Sud. C'est pour ça que je l'ai pas dit direct. Je suis deg.
Et ça fait un point pour Jérémy.
Donc bravo, il est bien né en Allemagne.
Petit point. Il va falloir me citer des équipes championnes du monde de triathlon relais mixte. D'accord. Donc les pays qui ont été champions du monde de relais mixte. Alors, une fois, hein, d'accord, on ne cite qu'une fois les pays, donc même si ça a été plusieurs fois, on ne cite qu'une fois le pays. Laurent, c'est à toi de commencer.
La France.
La France, oui, c'est bon, Laurent. Donc, pour la France, c'est tout bon. Ensuite, Jérémy, c'est à toi.
Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne, c'est bon. Jeanne.
Allemagne.
Alex.
États-Unis.
États-Unis, c'est bon. Laurent, à toi.
Australie,
c'est bon. Il reste un pays à trouver. Jérémy, c'est à toi.
Bah, moi, je vais dire la Suisse.
Eh bien, c'est bon. Tous les médaillés ont maintenant été trouvés.
Ah ouais, ils l'ont fait.
Tous les vainqueurs de championnat du monde relais mixte ont été trouvés. On va basculer donc maintenant aux médaillés. À toi, Jeanne.
Il devait y avoir Ryder.
La Hongrie, c'est bon.
Hongrie.
La Hongrie, c'est bon.
C'est le seul
Alex.
Que je sais en plus.
Moi, je sais. Ouais. Australie.
J'ai déjà été cité, Alex. Tu es éliminé.
Oh, j'en ai un.
On a dit ça, les pays cités. Alors, tu es out, Alex. Bah à toi, Laurent.
Nouvelle-Zélande.
C'est bon pour la Nouvelle-Zélande. À toi, Jérémy.
Afrique du Sud.
Afrique du Sud, ce n'est pas bon. Jeanne.
Bon, je dirais l'Italie.
Italie, ce n'est pas bon.
Et moi, je dirais la Belgique.
Eh ben non, mais tu as en fait Laurent, tu as déjà gagné en fait, parce que tu es le seul à gagner, à avoir donné au troisième
tour.
Est-ce
que Hollande alors, oui, déjà monté.
Et oui, il y avait la Hollande, la Russie et le Canada.
Ah, mais la Russie, ça compte pas.
Honte sur toi, Alex.
En plus, le Canada, j'ai pas eu le Canada dire, mais je me suis dit, si Alex l'a pas dit, aussi, c'est que non.
On va passer à la dernière question du quiz du trichot, question rapidité. Où va se dérouler en 2024 le championnat de France de duathlon longue distance?
T'as dit les France de duathlon?
Brest.
Quimper.
Ah, Gonfreville.
C'est son.
Bah, Gonfreville, non?
Pour TV.
Et voilà.
Ah, le grand
et
gagnant,
c'est Laurent
quoi.
Qui gagne le trichot, le quiz du trichot.
On a fait Fanny, Alex.
Et donc, merci à eux tous pour votre participation à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux. Pensez à liker, à partager la page. Si vous aimez le trichot, vous pouvez également nous le faire savoir en versant un café, un café, c'est minimum 1 euro sur le site Buy Me a Coffee. Ça nous permet en fait de faire avancer le trichot et de le faire fonctionner. Merci beaucoup à toi, Laurent, pour ta participation aujourd'hui.
Et puis, rendez-vous en mars.
Et on te souhaite une très bonne organisation 2024. Ouais, rendez-vous en mars, ouais.
Et emballez vos cadeaux avec des magazines au lieu du papier cadeau pour un petit geste écolo.
Merci tout le monde. À bientôt. Salut.
Salut. Ciao.